Bienvenue sur le podcast Maman Sereine de Mouvement Épanouissement. Je suis Charlotte Lepage, professionnelle de la santé intégrative et de la relation d'aide. Bachelière en kinésiologie, formatrice Écoute ton corps et maman, j'accompagne les femmes à s'épanouir personnellement et professionnellement grâce aux saines habitudes de vie et à l'attitude sereine. Si tu veux recevoir chaque nouvel épisode directement par courriel, tu peux t'inscrire gratuitement au podcast en visitant le www.mouvementepanouissement.com/podcast. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. On a vu dans le précédent l'approche Montessori, comment développer les capacités d'un enfant à s'émouvoir, à s'épanouir dans son enfance. Mais là, on va aller voir un peu la synergie du développement de l'enfant, parce que lorsqu'on élève un enfant, bien, on s'élève simultanément en tant que femme, en tant que mère. Donc, on a vu l'approche Montessori pour développer les enfants. On va voir qu'est-ce qui se passe simultanément, en synergie avec l'épanouissement de l'enfant, ben, l'épanouissement de la matrescence, la mère. Et je célèbre cet épisode en vue des 1 an de Clara. Donc, Clara va avoir 1 an. Et pour moi, c'était un épisode cadeau, un épisode bonbon après 1 an de matrescence, de pouvoir en discuter avec une femme, vous allez voir, fort intéressante, qui va nous apporter dans d'autres dimensions de la maternité qu'on n'a pas encore touché sur l'épisode de Maman Sereine. Donc, pour moi, ça va être un beau cadeau. Et c'est bizarre parce que j'ai reçu récemment une carte cadeau de mon papa, une belle carte qui disait « Félicitations pour les 1 an à Clara », mais dans la carte, il était aussi écrit « Félicitations pour les 1 an en tant que maman ». Et ça, j'ai eu une vague de frissons parce que mon père a été le premier à reconnaître que oui, ce sont les 1 an de Clara, mais c'est aussi les 1 an de ma maternité. Et dans la lettre, hein, il laissait la place à 1 an que j'ai appris à devenir maman, puis 1 an aussi que notre couple a appris à devenir parent. Et je vous dis encore à ce jour, je suis un petit peu émotive quand j'en parle parce que je trouve ça beau. J'avais jamais pensé ça quand on fête les 1 an d'un enfant, d'aller signer aussi les 1 an des parents, de la mère qui est devenue, hein, qui s'est transformée dans toute sa souveraineté maternelle pour devenir une maman. Alors, c'est ce que je veux qu'on parle, la souveraineté maternelle, la puissance de la femme, de cette très, très grande transformation qui, là, je parle du 0 à 1 an, mais la matrescence va jusqu'à 2 ans. Je vois des études qui touchent jusqu'à 4 ans maintenant. Le couple est en adaptation jusqu'à 5 ans. Donc, on voit que ça bouge beaucoup. Mais là, on va s'arrêter ici pour célébrer les 1 an de cette belle grande évolution et on va porter le regard sur la femme, sur la matrescence et notre belle souveraineté. Pour en parler, j'ai invité Aurélie qui va pouvoir nous parler de cette puissance féminine, de cet éveil de leadership féminin à travers la maternité. Bonjour Aurélie.
Salut, merci. Je suis émue de t'entendre. C'est rafraîchissant et c'est doux et bon, effectivement, tu vis cette joie et presque cette surprise-là de te fêter toi. Maman qui a 1 an. Merci, je suis heureuse d'arriver dans ton univers aujourd'hui pour ce podcast.
Oui, puis merci à Naomi qui nous a mis en contact, qui est une personne qu'on aime toutes les deux, qui nous a dit hey, vous deux, vous devez avoir une discussion ensemble, ça va être une belle ouverture. Puis c'est notre intention aussi à travers l'épisode, juste ouvrir une porte d'empuissancement au nouveau féminin. Puis je sens que cette porte-là, personnellement, elle a été ouverte à travers, dès ma grossesse, au début de ma grossesse, j'ai senti que cette porte-là, elle a une petite craque qui s'est ouverte. Et là, elle a grandi. Et là, aujourd'hui, on dirait que j'ai l'impression qu'on est dans une autre dimension de la souveraineté à travers la maternité. Et ça me fait sourire parce que j'avais écrit un poème à la fin de ma grossesse. Et je l'ai relu récemment, je l'avais mis sur Instagram. Je vais vous mettre le lien en lien d'épisode si vous allez voir juste même la photo que j'ai mise, la façon que mes yeux sont placés, la façon que je regarde et le titre qui s'appelle I Dare You. Et le poème qui s'intitule I Dare You va toucher en I Dare You to Tell Me What to Do. Je te mets au défi de me dire comment pousser. Je te mets au défi de me dire quand est-ce que je dois accoucher. parce que moi, Clara, elle a dépassé hein, de plusieurs jours. Et tout le monde était stressé autour. Mon Dieu, non. Moi, j'allais faire mes échographies de suivi et j'avais confiance que mon bébé allait sortir quand qu'elle voulait. Je le mets au défi de me dire comment je dois accoucher, quelle façon je dois faire, si je dois faire des bruits ou pas. Je te mets au défi de me dire que j'ai pas les compétences d'accoucher. Je te mets au défi de me dire que j'ai pas les compétences maternelles ou que je serai pas une bonne mère ou peu importe. Je te mets au défi de m'insécuriser par rapport à mes capacités de donner naissance. Et tout ça, là, dans ce poème-là, et je l'ai écrit, je pense, quelques jours avant que Clara naisse, je le relis aujourd'hui et je sens l'énergie monter dans mon corps, l'énergie féroce et le ouf, I dare you. On voit, c'est encore plus fort en anglais. Et quand je le relis, je me dis, hey, à ce moment-là, la poussée de souveraineté, là, j'ai senti comme, d'après moi, il y avait une poussée d'hormonale qui montait en même temps parce que c'était pour me donner la férocité de l'accouchement en même temps. Est-ce que tu peux nous en parler de cette énergie souveraine, presque rebelle, de reconnexion quasiment animale à ses instincts, à son intuition qui se produit au fil déjà de la grossesse, puis qui monte, monte, monte jusqu'à, mon Dieu, arriver à devenir une tigresse avec son bébé?
J'aime ta ton champ lexical tigresse, féroce. Ça se vit pour chaque femme d'une couleur qui peut être assez différente. Toi, tu parles de férocité, de tigresse, puis j'aime ça, ça me parle. Il y a effectivement quelque chose de tellement fort, tellement animal, organique, tellement instinctif, effectivement, qui se prépare. Et pour certaines, ça va commencer dès la préconception. Il y a des femmes qui passent par des processus de PMA, l'infertilité, tout ça. Elle témoigne hein, de ce savoir intérieur, de cette force-là qui pousse à l'intérieur d'elle et qui fait qu'elle savent, qui fait qu'il y a quelque chose d'elle qui est plus grand, plus profond, puis qui pousse et qui s'affirme. Ouais. Et tout ce que les femmes peuvent vivre pendant ensuite, évidemment, la grossesse, parce que ça commence pas le jour où le bébé il naît, ça commence bien avant. Et tout ce qu'on peut traverser pendant la grossesse et la façon qu'on a de le vivre nous fait comme ça apprivoiser cette matière-là qu'on est, qui vient complètement nous transformer ou nous donner l'opportunité de nous transformer parce que le libre arbitre est là et il y a des initiations qu'on est prête à faire, puis d'autres qu'on va aller repousser à plus tard. Et ça, oui, il y a tout l'aspect hormonal, il y a évidemment cette dimension, si tu veux, que dans notre patrimoine génétique et tout ce qui nous a été transmis par notre lignée de femmes vient influencer, en fait, vient avoir une influence sur le comment on va vivre les choses et comment on va tenir cet espace-là qu'est le fait de se laisser traverser par la vie.
Je prends des notes parce que déjà, il y a des choses qui me montent quand tu parles. Tu sais, tu utilises des mots comme se laisser traverser par la vie. C'est exactement comment on peut résumer un accouchement. C'est exactement ça. On va y revenir, mais tu as utilisé le mot initiation.
Ouais.
Premièrement, est-ce que tu peux le définir dans tes mots?
Quand je parle d'initiation, c'est un processus évolutif qui se passe dans ma chair, qui se passe dans mon cœur, qui se passe dans ma tête et qui se passe dans ma vie extérieure. C'est ça, une initiation. Et pour moi, l'accouchement en tant que tel, même si je peux vraiment englober la grossesse là-dedans, puis parfois même la préconception, comme je te le disais, voire le postpartum, tout ça, bon, mais si j'y vais juste avec l'accouchement, l'accouchement, c'est en accélérer, si tu veux, une expérience, une expérimentation de ce nouveau soi qui est à l'œuvre, qu'on le veuille ou pas, parce que là, la volonté, elle a peu de prise sur tout ce que le corps met en place pour donner la vie. Et donc, tout d'un coup, en si peu d'heures, tout cet aspect spirituel même, hein, psychologique, émotionnel, physique, est mis à contribution et il n'y a rien qui... Dans un accouchement, chaque femme traverse des moments où l'inconnu est là. Elle est complètement envahie rempli de j'avance à vue. Comment l'accouchement, et puis la vie, c'est ça, hein, parce que l'accouchement, pour moi, c'est une belle métaphore de la vie, mais comment avancer et trouver l'espace de sécurité intérieure dans l'insécurité qui est le fait d'accoucher.
C'est exactement ça. C'est comment est-ce que dans toute la vulnérabilité, parce que tu te sens vulnérable, autant quand tu es rendu enceinte jusqu'aux oreilles, que quand tu accouches, que quand tu es après l'accouchement en postpartum, ton corps est en guérison, tu atteins une vulnérabilité physique, émotionnelle, mentale, même après en postpartum, la vulnérabilité mentale, on va reparler, mais ça aussi c'est un défi. Tu atteins une vulnérabilité. C'est tellement paradoxal parce qu'en même temps, il y a une puissance qui s'installe. C'est comme si la vulnérabilité se base au niveau de la volonté. Je ne peux plus contrôler. Je dois m'abandonner à une force que je ne contrôle pas, une force qui est naturelle, qui est innée, qui est instinctive. Et c'est comme si au sein de mon abandon à ma vulnérabilité, de mon acceptation à tout ça, c'est là que je touche une puissance indestructible. Une espèce de, oui, tu parlais d'initiation, l'espace-temps se brouille, c'est, tu sais, j'ai jamais fait de trip de moche, mais je suis sûre que la transe que tu peux vivre en accouchant dépasse tout ce que tu peux boire comme cocktail de racines, manger comme champignon, là, vraiment, c'est quelque chose qui t'emmène dans d'autres dimensions, tu t'habites ton corps physique, puis en même temps, tu le quittes, c'est comme si ton âme, ton esprit fait des va-et-vient entre ici et là. Tu deviens l'espace, le canal un peu entre matière et spiritualité, entre matière et énergie. Tout se brouille, tout se confond. C'est comme si les délimitations du monde matériel atomique, finalement, on se rend compte que l'atome, c'est 99,999% de vide et d'énergie. Et là, il y a d'autres choses qui se passent. Puis l'intensité de la douleur, l'intensité de ce que tu ressens, te fait partir dans une autre dimension qui, moi, j'aime bien le visualiser comme si j'ai quitté mon corps un instant pour aller chercher mon bébé dans les étoiles et le ramener avec moi sur Terre. Il y a cette espèce de transe-là. Donc oui, quand tu parles d'initiation, je trouve ça si fort, même que personnellement, j'ai écouté un livre, j'ai écouté un film récemment où est-ce que la femme a en fait a fait une traverse de voilier là, vraiment spectaculaire. Elle dépasse toutes les records Guinness et tout ça. Puis j'écoutais le film. Puis à la fin, tu sais, moi et mon conjoint, on était comment épatés de voir son dépassement personnel qu'elle a fait, cette femme-là. Et moi, de dire à mon conjoint, humblement, là, j'ai le feeling d'avoir fait la même chose, sinon plus. En accouchant, j'ai l'impression d'avoir atteint le mont Everest. J'ai l'impression d'avoir vécu mon triple marathon ultime. J'ai l'impression d'avoir vécu un dépassement de mes limites personnelles à justement en vivre une expérience aussi grande que quelqu'un qui a monté le Kilimandjaro, là.
Ben oui, puis il y a une partie de tu sais, quand tu parles de cette vulnérabilité, qui accepter la vulnérabilité, rendre les armes en fait. Accepter la vulnérabilité te permet de toucher à cette puissance, mais c'est ta puissance. Et c'est pas ta puissance du petit ego, si tu veux, c'est ta puissance en tant qu'un être multidimensionnel qui est aussi dans l'incarnation et qui là va laisser dans sa chair, tu sais, passer la vie. Et ça, c'est une dimension, si tu veux. Pour moi, la différence que je vois avec, j'ai jamais fait non plus de plantes, là, mais il y a quand même, pour moi, ce qui est rassurant dans les plantes, c'est qu'à un moment donné, la digestion va se faire, puis mon corps va avoir processé le truc, puis je le sais que si j'attends, ça va passer. Hein, si je pars faire une quête de vision dans le désert, c'est une image que je prends souvent, hein, plutôt que de partir faire une quête de vision dans le désert, accouche. Tu vois? Parce
Oui.
que la vision dans le désert, je sais qu'au bout de 2 nuits, globalement, j'ai quand même payé, j'ai des assurances, il y a peu de chances qu'il y ait un chacal qui vienne me bouffer, puis après, je reprends le bus, puis je rentre chez moi. Mais l'accouchement, tu rentres pas chez toi toute seule. Il y a un bébé qui est là. Tu vas installer peut-être l'allaitement. Tu vas te poser des questions qui vont avoir un impact direct sur les fondements de la vie d'un être, l'être auquel tu le tiens le plus. Parce qu'à ce moment-là, c'est lui qui compte plus que toi. Donc, c'est au-delà de toi, l'accouchement. C'est au-delà d'une quête de vision. C'est au-delà d'une expérience transcendantale pour comprendre c'est quoi ta mission de vie, là. Puis j'ai aucun dédain pour tout ça. Mais on
Non.
comprend de l'accouchement, ce qui se passe pour la femme et le père. Mais là, je veux vraiment qu'on parle de la femme. C'est comme, il s'agit même de plus grand qu'elle pour un être dont elle va avoir la responsabilité de l'émergence.
Mais c'est au sein de cette vulnérabilité-là que si on n'est pas préparé, on peut ressentir de l'insécurité et donc se retourner peut-être aller chercher du réconfort et peut-être même oublier certaines de nos ressources et aller s'accrocher à une posture d'autorité extérieure. Je ne dis pas qu'on devrait accoucher toute seule dans le bois nécessairement. On doit avoir un village, même un village médical qui est là pour nous. Mes sages-femmes m'ont aidée. Je suis même allée à l'hôpital par la suite à cause de mon hémorragie. On a suivi mes signes vitaux pour être sûr que je ne manque pas de fer, que je n'avais pas besoin de transfusion sanguine. J'ai adoré les infirmières, j'ai adoré les médecins qui ont fait mon suivi. Tout ça était A1. Par contre, je n'étais pas dans une soumission vis-à-vis l'autorité. J'étais en relation. Et ça, je veux qu'on en parle parce que dans la souveraineté, la prise de ce pouvoir-là, cette collaboration qu'on va faire avec les autres, on va être en relation avec des postures d'autorité. Comment est-ce qu'on jungle avec cette vulnérabilité-là? La vision de l'autorité suprême à l'extérieur de soi et le rapatriement de notre pouvoir, puis de dire que finalement, non, j'ai aussi une autorité intérieure.
Exact. C'est j'adore, t'amènes ça de façon en fait c'est comme si tu dis déjà tout dans juste en lançant tout ça, tu vois. Parce qu'effectivement, ce qui se passe, c'est que la société, là je vais parler du monde occidental, okay, là, la société dans laquelle on vit, moi je suis doula aussi de formation, là je pratique plus en ce moment ces dernières années, mais j'ai été doula. Puis si tu veux, ce qui se passe, c'est que il y a non seulement une médecine, si tu veux, qui ne prend pas en considération cet aspect multidimensionnel ou spirituel, ou en tout cas de l'être, pour ce que ça représente pour la femme d'accoucher. Donc il y a une incompréhension d'éléments essentiels de l'équation de l'accouchement pour une femme. Ça, c'est une chose. Il y a aussi une déresponsabilisation, je pense, des couples et des femmes et des papas en lien avec je vais faire confiance à l'extérieur, on va me dire quoi faire, de toute façon c'est eux les spécialistes. Donc je pense que la responsabilité elle est partagée si tu veux dans notre société sur quant au fait qu'il y a des accouchements qui sont pour la majorité en fait des femmes qui sont vécues difficilement, qui sont vécues avec beaucoup de violence par la femme, des accouchements où tu arrives et tu es en guerre contre le système. Tu mets juste tous les éléments en route pour qu'il n'y ait pas de possibilité pour toi d'accoucher, finalement, d'être dans ta bulle, etc. Donc, il y a une responsabilité qui est là, qui est que la personne, le couple, la mère, le père, regardent à l'intérieur d'eux qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire, qu'est-ce qu'ils ont à mettre en place en fonction de leurs valeurs, de leurs désirs, dans le contexte dans lequel ils vont accoucher. Il y a la responsabilité aussi au niveau de la médecine. Moi, je pense définitivement de vraiment sortir du côté de l'intervention et de la peur du problème, parce que les obstétriciens sont formés à des accouchements qui sont problématiques, en fait, hein. Une sage-femme, elle est formée à l'accouchement qui se passe bien, physiologique, et l'obstétricien, lui, il est formé à avoir tous les red flags qui se lèvent pour anticiper sur des problématiques. Donc, tu vois que le regard porté sur la femme qui accouche est vraiment différent. Toi, tu as accouché en maison de naissance, je pense, tu disais. Moi, j'ai accouché pour mes trois enfants. Moi, j'ai trois enfants, j'ai accouché à l'hôpital. La première était en siège, donc je devais aller à l'hôpital parce que s'il y avait quoi que ce soit, il fallait qu'on puisse intervenir vite. La deuxième, je devais accoucher en maison de naissance. Puis quelques jours avant l'accouchement, elle s'est retournée en transverse, donc j'ai eu une césarienne pour la deuxième, pas programmée parce que j'ai demandé effectivement. En fait, j'ai dit qu'elle ne serait pas programmée parce que oui, c'était pas important pour moi que les hormones se déclenchent, tout ça. Puis le troisième, il est né aussi dans un hôpital très spécialisé à Sainte-Justine parce qu'il était mal formé. Puis il avait une malformation, puis il risquait de mourir en fait à la naissance. Puis dans les semaines qui ont suivi, il y a eu beaucoup d'inconnus voilà, sur ça. Donc moi, j'ai accouché trois fois à l'hôpital, accompagnée d'une doula. Mais si tu veux, j'ai pour avoir vécu moi personnellement des moments extraordinaires à l'hôpital. Pour moi, c'est important de ramener la responsabilité de la mère et du couple à. C'est pas vrai que c'est parce que tu vas accoucher en maison de naissance que tu vas avoir l'accouchement que tu veux avoir. Et c'est pas vrai que si tu vas à l'hôpital, tu vas subir. Tu es en position de victime, là, subir les interventions. Je pense que ça, c'est important. Il y a aussi, comme tu le dis, enfin, je sais pas si tu veux parler, mais bref, par rapport à l'aspect du lien à l'autorité, c'est définitivement un espace, la grossesse, où là. On est pour beaucoup challengés parce qu'on a des envies, on a des valeurs, on a des choses qui nous sont importantes à nous, à notre couple, pour notre famille qui se crée. Et on est confronté donc à des médecins ou des intervenants de la médecine qui, pour nous, sont des figures d'autorité. Et si on n'a pas fait notre travail intérieur, d'accord, à savoir comment est-ce que moi je me positionne ou je ne me positionne pas face à une figure d'autorité, ça peut bien être la faute du médecin à l'accouchement. Mais en fait, est-ce que toi, tu as été capable de nommer, de te nommer, de rentrer en collaboration avec les figures d'autorité qui sont présentes. Et si tu pars en guerre et en contre, tu mets pas tous les chances de ton côté pour que ça fonctionne. Par contre, si tu vas vraiment en mode, moi, ce qui me tient à cœur, ce qui m'est cher à moi, puis à mon bébé qui va naître, c'est ça. Quand tu parles depuis ton cœur, tu vas toucher le cœur de la personne. Tout peut arriver, bien sûr, mais.
Oui. Ah, mais je trouve ça important que tu le mentionnes parce que je suis moi-même une professionnelle de la santé. De ma carrière en kinésiologie, de ma carrière en professionnelle en relation d'aide, je marche main dans la main avec les psychologues, avec les médecins, et je n'ai aucune haine envers leur profession. Je sais seulement quelle est chacune de nos zones. Et on marche en collaboration ensemble. Je sais quand est-ce que je relaie la balle à un médecin. Si ma fille est malade, je sais quand est-ce que je dois me rendre à l'hôpital. Mais je sais aussi que je suis dans mon droit de refuser certains soins si je juge que c'est pas pertinent. Et ça, je trouve ça important parce que notre relation à l'autorité va être saine lorsque on se voit comme j'appelle ça patients partenaires. Il y a un cours à l'université qu'on faisait avec de façon interdisciplinaire avec d'autres disciplines et on apprenait c'était quoi un patient partenaire. On apprenait, puis là, je te parle de ça, c'était en 2018, c'est en train, je pense, de plus en plus, les nouveaux diplômés, les nouvelles infirmières, les nouveaux médecins, les nouveaux... Tu sais, on est en train de voir comment est-ce qu'on peut se partager les dossiers, s'entraider et mettre au centre le patient. Et nous sommes des partenaires aux patients. Nous sommes là des ressources externes pour apporter des outils, des connaissances, des compétences, des techniques ou des méthodes, des chirurgies, peu importe, pour aller soutenir le patient qui est au cœur de notre intervention. Et son consentement libre et éclairé est important. Donc, ce que moi j'aimais, par exemple, que les sages-femmes, c'est à chaque fois, avant de me demander une prise de sang, ils m'expliquaient pourquoi. Avant de me demander tel test, ils m'expliquaient pourquoi, puis ils me demandaient si c'était ce que je voulais. J'ai tout accepté, là. Mais juste de me sentir honorée dans mes volontés, dans mon intelligence, de dire, hey, je participe à ce qui se passe. Je ne suis pas soumise, je ne suis pas malade d'un bébé en moi. Je suis moi, toute là, présente, parle-moi. Et parle à mon conjoint, parce qu'il n'est pas juste une poupée dans le bureau avec moi, là. On est ensemble et il y a des belles, grosses discussions qui sont importantes aussi au sein du couple, parce que dans la grande vulnérabilité de l'accouchement, le papa se retrouve avec le gardien des volontés de la maman pendant que nous, on est en transe dans l'espace pour aller chercher notre bébé, là. Donc, il y a aussi toute cette sécurité-là que papa apporte ou que le partenaire apporte en étant fidèle aux valeurs qu'on a établies ensemble. Pas parce qu'on a tout contrôlé les paramètres de l'accouchement ou du postpartum, mais parce qu'on établit c'est quoi nos valeurs, c'est quoi nos priorités, puis par la suite, ben, à la grâce de Dieu, on s'évanouit puis on va avec le courant de la vie. Mais ça, je trouve ça important. Puis j'ai un exemple à donner parce que j'en ai jamais parlé de ça. Mais à 6 semaines, Clara, ma petite poulette, a attrapé le rhume, j'allais dire la grippe, le rhume de mon conjoint. Donc, elle avait une petite congestion nasale. Et étant un bébé de 6 semaines, ben, on est plus inquiet hein, parce qu'elle respire moins bien, tout ça. Et a commencé à faire de la fièvre. Et là, ma famille, qui se voulait rassurante, dit, hey, il n'y a pas de problème, Charlène, elle a juste un rhume, tu sais. Et là, la fièvre montait, ça a dépassé ma propre limite de niveau de fièvre que moi, je tolère, la propre limite que Santé Canada aussi nous dit d'aller consulter un médecin à ce moment-là. Mon conjoint, lui, aurait resté à la maison. Mais moi, je dis, moi, je ne suis pas bien, je veux aller à l'hôpital. Et à ce moment-là, ben, il dit, gars, on va y aller ensemble. On s'est entendu. Donc, on est allé à l'hôpital ensemble. Il dit, si tu as besoin d'être rassuré, on y va, mon amour. Fait qu'on est allé. Rendu à l'hôpital, Ils ont pu donner du Tylenol, du Tempra pour bébé, que nous, on ne peut pas donner en vente libre à un bébé de 6 semaines. Mais eux, ils ont pu dans leur protocole le faire. Ils ont fait un espèce de sinus rinse électrique là, branché au mur que tout décongestionnait ma fille. Ma fille, elle respirait. La fièvre a cassé, a baissé. J'avais retrouvé mon bébé. Et là, moi, à ce moment-là, je me suis dit, merci médecine, je suis comblée. Par contre, le médecin, à ce moment-là, à l'urgence de Sainte-Justine, me dit, on recommande à ce moment-là de faire des tests de prise de sang et rentrer un cathéter au niveau de l'urètre parce que souvent la fièvre à ce niveau-là peut être liée à des infections urinaires. Et là, on m'a pas demandé mon avis, on m'a dit, allez dans telle salle, les infirmiers vont faire tel test. Et là, on sort de la salle. Mais tout ça se bouscule super vite. Ma fille, elle a 6 semaines. Je suis encore en postpartum. Je suis encore fatiguée. Je suis encore vulnérable. Je suis encore toute perdue. Et là, on nous appelle parce que vu que c'est un bébé de 6 semaines, on ne fait pas attendre là, dans le bassin de microbes là, à la salle d'attente. Ils nous font rentrer tout de suite. Les infirmiers arrivent, déshabillent ma fille, mettent les gants. Je vois la seringue. Moi, j'aime pas les seringues. La seringue pour les prises de sang, le truc de cathéter, mon petit bébé de 6 semaines qui venait juste de pouvoir baisser sa fièvre puis être en paix, déposé sur un plastique dur, froid, avec une lumière. Plein de monde autour de lui. Là, ma fille se met à pleurer. Et j'ai ressenti dans mon corps la crispation de dire, hey, je veux pas ça. Je sais que ma fille elle a un rhume, je ne veux pas ça. Et là, le conflit interne, le premier grand conflit interne, pas sûr d'autorité, le médecin a dit qu'il fallait le faire, les infirmiers sont prêts à le faire, là, ils s'approchent avec l'aiguille de ma fille. Là. Et là, moi, qui, dans ma bonne, rigide, conforme, bonne petite fille qui voudrait, tu sais, plaire à l'autorité, puis tout faire correctement, puis selon les normes et tout ça, s'est senti en duel intérieur avec la montée de la férocité puis toutes les hormones de postpartum qui ont monté. Et là, j'ai crié comme une scène de drame, là. C'était comme dans les films, là. Je me suis dit, arrêtez, vraiment, tout ça! Je veux plus. Et je me suis mis à pleurer. Je dis, je veux pas, je veux pas, je veux plus, je veux pas. Et là, je me suis mis à pleurer, shaker, j'ai ramené mon bébé, je l'ai pris contre moi puis je l'ai allaité tout de suite, debout. Et là, les infirmiers ont regardé mon conjoint beaucoup plus calme que moi. On dit, écoutez, mon chum m'a dit, partez un instant, je vais discuter avec ma conjointe et nous revoir, tu sais. Et là, moi qui, en larmes, je shakeais, je tremblais, je dis à mon conjoint, je sais que c'est juste un rhume. Si elle a une infection urinaire ou des problèmes au niveau de son sang, je veux savoir c'est quoi les signes et symptômes à surveiller à la maison. Je ne suis pas une mère indigne. Dites-moi c'est quoi les signes et symptômes, je vais les surveiller à la maison. Si j'ai un moindre doute, je vais revenir. Puis moi, j'habite en campagne sur la rive sud, je vais refaire la route. Ça ne me dérange pas. Je m'engage à le faire. Mais là, moi, ça dépasse ma limite. Tout ce que je venais chercher de l'aide médicale, c'était ça. Et le sentir que je dois m'affirmer parce que le médecin revient dans la salle avec les deux infirmiers qui me regardent en voulant dire, hé, hey, la mère en postpartum, folle, agressive, tu vas-tu te calmer une heure, là? Comme, reprends sur toi, fille, là. Puis elle m'expliquait tous les signes et symptômes à surveiller. Puis je me suis dit, ça, je m'engage à le faire. Et là, je suis repartie avec mon bébé. J'étais soulagée de pouvoir avoir été capable de m'avoir avancé, puis d'avoir mis mon pied à terre. Même mon conjoint était comme rendu là, Charles, on fait les tests, pour on va la tête tranquille. Fait que, tu sais, peu importe ce qui... Tu sais, il y avait ma famille qui me disait, tu vas à l'hôpital pour rien, là, ah, ben là, finalement, fait les tests rendus là, puis tous les appels extérieurs, les informations, et là, de pouvoir dire, OK, hey, moi, là, je me sens vraiment pas bien, c'est pas ça que je veux, je mets mon pied à terre, voici ce que je veux surveiller mon bébé, je veux que sa santé soit là, mais là, je me sens pas bien. Ça a été un élément coup de poing, je trouve, dans la posture souveraine d'une mère à travers l'autorité, parce qu'il y avait plein de conflits, plein de pensées, puis tout ça se déroule super vite, là, et de me dire, OK, ben non, je me donne le droit de dire non si moi je le sens pas parce que je suis à l'écoute de mon senti, et là, je suis à l'envers. Mon senti me fait dire que je suis à l'envers, donc il y a quelque chose qui se passe pas. Peut-être que ça se passe trop vite, peut-être que j'ai pas été assez informée. La réponse, c'est pas nécessairement refuser les soins, là. C'est peut-être juste de m'asseoir dans une salle puis me faire expliquer encore. Mais moi, à ce moment-là, ma décision finale, ça a été non. Je sentais la souveraineté se mélanger dans ce nouveau repositionnement intérieur parce que là, je parle pas juste de moi. Je parle de ma fille, une tierce personne. Comment tu entrevois là, cette grande dynamique-là d'affirmation de soi à travers les soins d'un bébé qui n'est pas nous?
C'est ça que je te disais tantôt, l'accouchement, c'est au-delà de toi. C'est l'enfant, est-ce qu'il va vivre? Tu sais, ultimement, pour ton cerveau, là, C'est pas tant la mère, des fois elle peut se dire est-ce que je vais mourir là, mais c'est plutôt la peur qu'il se passe quelque chose pour le bébé. Globalement, toute l'attention est beaucoup portée sur le bébé. Et c'est ça qui se passe là à tes 6 semaines, c'est que le bébé, effectivement, on n'aime pas ça, un bébé qui fait de la fièvre, un nourrisson qui fait de la fièvre, on n'aime pas ça. Donc là, tu rentres à l'hôpital, mais tu sais, je t'entends parler, puis en fait, moi, ce que je capte de toi quand tu parles, c'est que pour toi, tu le savais ce qui était bon ou ce qui était juste. C'est le mental avec les interventions extérieures qui, là, venaient mélanger tout ça, mais tu n'as pas eu à négocier avec ton senti, en fait. Ton senti, il était clair. Et ça, notre société, on a de la difficulté à juste focusser sur cet espace-là, qui est un espace qui est très à l'intérieur. C'est comme notre sanctuaire. C'est sécuritaire, c'est calme. C'est calme et la réponse, elle est là. C'est oui, j'y vais, non, j'y vais pas. Oui, je le fais, non, je le fais pas. Et le non, je le fais pas, tu l'as bien dit, c'est pas nécessairement jusqu'à la fin des temps. Ça peut être aujourd'hui, là, maintenant, c'est pas ça qui est là. Et je peux revenir demain, puis t'as pris ta responsabilité. C'est pas d'être contre l'intervention, c'est de prendre ta responsabilité. Moi, la maman, je vais observer mon enfant, et puis dites-moi ce qu'il faut que j'observe un peu plus ces temps-ci, puis s'il faut, je reviendrai. Mais tu sais, on est connecté à notre enfant, tu sais, quand on parle physique quantique, on parle de l'intrication quantique. Okay? L'intrication quantique, c'est qu'on est tous interreliés parce qu'on a tous un bagage commun, en fait, l'humain. Mais nos enfants et nous, on part des mêmes cellules. D'accord? Puis tu les portes dans ton ventre, ton sang, enfin tout ça, on est complètement interreliés. Donc le senti, quand tu dis mon senti, il n'est pas séparé de ton bébé, surtout à cette période-là de la vie de ton bébé. Et c'est pas une connaissance, c'est un savoir. Enfin, je sais pas si ça dépend ce que chacun met derrière connaissance ou savoir. Mais ce oui ou ce non-là, il est pas polarisé, en fait. C'est juste un espace de vérité, en fait. La mère, elle sait que ça, c'est bon. Versus la mère, elle est comme non. C'est pas ça qui est juste. Et ça n'a rien à voir avec à qui on parle, etc. C'est pas contextuel. C'est une vérité. C'est ça, c'est au-delà d'une polarisation, c'est au-delà d'un raisonnement même, en fait. Ouais. Et quand cette vérité-là, elle est reconnue, considérée, honorée par l'environnement de la mère, que ce soit pendant l'accouchement ou évidemment après pour la suite des choses, ça donne accès à la mère de façon exponentielle à vraiment pouvoir, dans toutes les sphères de sa vie, bénéficier de cette puissance-là qui vient d'un espace de vulnérabilité, parce que ton bébé, il est malade, là, ton bébé, il n'est pas bien, là. Donc, tu es encore en train, encore une fois, de toucher à cette vulnérabilité-là, puis en même temps, la puissance de cette vérité qui est une évidence pour toi. Puis ça, pour une femme, dans la vie d'une femme, je ne parle même pas de la mère, mais là, vu qu'on parle d'accouchement, on parle d'être mère. Plus tu traverses ces initiations, plus tu as accès à cette puissance-là, depuis l'espace d'insécurité et de vulnérabilité-là, plus dans ta vie, tu es inarrêtable, en fait. Puis on le sait qu'une femme puissante, elle ne va pas faire du mal. Mais elle va avancer. Et ça peut être épeurant. Parce qu'il n'y a pas d'argument qui peut arrêter une femme inarrêtable. C'est elle qui s'arrêtera quand la vérité, ce sera là, j'arrête. Là, je m'arrête. Là, je fais une pause. Et ce n'est pas de l'ego. La force qu'on a, les femmes, c'est d'être connectées au collectif. C'est énorme. Ça fait partie du fait qu'on porte la vie, de toute façon. Et notre société aurait à gagner. Elle a tout à gagner à avoir des femmes qui sont dans cette puissance-là, qui n'est pas une puissance écrasante, qui est une puissance d'avancer avec. Puis c'est pour ça que quand tu parlais de collaboration tantôt, c'est extrêmement juste. C'est d'être en collaboration avec toutes les personnes qui sont là pour s'occuper de l'enfant, pour s'occuper de la mère qui accouche, à l'école, dans le milieu hospitalier, dans notre société. Mais ce qui est spécifique à nous les femmes, c'est que on n'a pas nécessairement une vision. Dans le sens où la vision, elle se crée au fur et à mesure de ce qui arrive dans la vie. Elle se construit, elle se déploie à l'intérieur de la femme au fur et à mesure de ce qu'elle vit. Donc, il y a un côté tellement moins mental, finalement, moins rationnel, si tu veux, que d'envisager ça pour des cerveaux, ben c'est insécurisant. Parce qu'il y a une confiance en le process de la vie qui fait partie des ingrédients de la recette.
Mais ça dépasse l'entendement. C'est souvent irrationnel. Je trouve ça beau que tu en parles parce que c'est vrai, il y a quand on développe la capacité du senti, on revient toucher un savoir inné qui dépasse notre compréhension mentale. Puis moi, il y a bien des choses que j'ai choisi de lâcher prise. Je me dis, je ne comprendrai pas ça. Je ne comprendrai pas ce qui se passe dans mon ventre avec mon fœtus. Je dépasse la compréhension de ça, ça me dépasse, ça dépasse l'entendement. Il y a tellement de choses que la grossesse, la maternité, ça nous dépasse finalement, qu'on ne peut pas comprendre. Puis d'accepter ce fait-là, que ça dépasse l'entendement, ça nous plonge dans nos antennes intérieures du ressenti. Et là, ça nous ouvre une autre dimension de la connaissance parce que dans une société où est-ce que l'autorité suprême est reliée à l'intellect, plus
C'est
t'as de
ça.
diplômes, plus t'as de pouvoir, hein, plus t'as d'argent et donc plus de reconnaissance, plus. Est-ce on serait pas en train de vivre une bascule pour aller remettre finalement, ce n'est pas la connaissance ici qui te met en posture d'autorité, mais bien un savoir et une conscience. Et là, on va retrouver finalement, non pas une hiérarchie des pouvoirs, mais un écosystème, comme la nature nous l'enseigne si bien. Même dans la chaîne alimentaire, il y a une harmonie, il y a une dynamique, la vie circule, tout est en équilibre ensemble. Le rôle de chacun, ne serait-ce que la fourmi ou la baleine, a un rôle précis dans cet équilibre-là de la vie. Donc, le médecin a une importance, la mère a une importance, le bébé a une importance. Tout ça est relié. Et si on essaie d'encore là, mettre l'autorité dans l'intellect, la connaissance, on passe à côté de la connexion super importante qui est la conscience.
Ouais, la conscience, puis il n'y a pas d'exclusivité. Parce que je pense que rendu où on est rendu les femmes aujourd'hui, on peut bien être dans la conscience, mais on en a besoin d'avoir des connaissances. On a besoin de lire des livres pour beaucoup de femmes pour se préparer. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la physiologie de l'accouchement? On est beaucoup à avoir besoin de se renseigner, d'aller chercher ce savoir intellectuel-là, rationnel, analytique-là, pour s'abandonner et surrender et être connecté. Être dans cette conscience-là. Tu sais, moi, je trouve ça fabuleux d'apprendre que dans la forêt sauvage, selon le nombre de bébés qu'il y a eu, des proies, des loups, ben, les loups vont moins bouffer. Et puis, quand il y aura plus de bébés, ben, là, il y aura plus à manger. Donc, les loups vont faire plus de bébés. Enfin, tu sais, quand on parle de conscience, la conscience, elle n'est pas individuée. La conscience, elle est cette conscience-là de soi et de l'autre. Et de cet écosystème dont tu parles, de cette harmonie qui est possible. Tu vois, moi, j'ai vécu une expérience à ma première, là, parce que j'ai accouché naturellement, hein, physiologique de ma fille en siège, très surveillée, mais j'ai vraiment accouché naturellement. J'avais juste un monitoring en continu pour rassurer tout le monde. Et c'est ça, moi, je suis quelqu'un de très intelligent, très connaissant. Je fais des études supérieures, je lis, je réfléchis. Tu sais, c'est une force, j'ai une force rationnelle. C'était hyper challengeant d'accoucher, là. Puis en plus, dans un contexte avec un bébé en siège, où là, on parle de tentative, tu sais, avec des mises en. Et je me rappelle, j'étais accroupie là, je me disais, j'étais flabbergastée de me dire, je ne sais pas comment. Tu sais, je ne peux pas donner l'ordre à mon cerveau, genre, OK, là, mon col, s'il te plaît, va ramollir et t'effacer de temps. Tu sais, c'était comme, c'est au-delà, là. C'est comme, il n'y a personne qui t'allait dire à ton fœtus, va faire le bras gauche maintenant, puis là, c'est rendu que c'est la rate, là, tu sais. Et cette conscience que. Je suis vraiment tombée dans le surrender. Tu sais, je m'abandonne, je lâche prise, je m'abandonne à plus grand que moi. Et là, j'ai senti en arrière de moi, dans mon dos, comme les champs énergétiques de toutes les femmes qui avaient accouché avant moi dans ma lignée. Et elles étaient là. Je t'en parle, chaque fois que j'en parle de ce moment-là, je suis toujours émue. Elles étaient là avec moi dans cette chambre-là à Sainte-Justine. Moi qui n'avais aucune idée de comment ça allait être possible. Et j'étais là. Et il y a eu cet amour-là. Elles m'ont transmise chacune l'expérience, parce qu'elles les ont mis au monde des bébés. Et j'ai eu accès comme ça à une conscience collective féminine de ça va avoir lieu. Et il y avait à l'intérieur de moi une dualité parce que je voulais contrôler, je voulais savoir. Mais en fait, je suis rentrée dans cet espace, cette zone-là, tu sais, où le temps n'existe plus, tu sais. Où tu es dans ton corps, mais tu es dans bien plus vaste que ça. Et où la vie, elle avance, tu sais.
Juste oui. Oui à tout ça. Puis oui à, tu sais, on n'est pas en train de dénigrer le mental. Moi aussi, j'ai lu plein de livres. J'ai écouté plein de vidéos de vlogs naturels d'accouchement. Je voulais, mon mental voulait avoir des informations. C'est une partie de notre corps. Il existe, il est là, il y a une efficacité. Mais ce n'est pas que. L'autorité suprême n'est pas mon mental. J'ai de l'information, des mémoires, des indications, oui. Et là, avec ton, merci ton partage en plus d'aller voir qu'il y a un savoir cellulaire. Il y a un savoir inné, transgénérationnel qui est là derrière moi. Et je le vois, là, ton image de ta mère derrière toi, ta grand-mère, ton arrière-grand-mère qui est là. Puis jusqu'à la nuit des temps, ce transfert-là de connaissances, de savoir, je trouve ça tellement beau. Puis on dirait que ton image me remplit de frissons en passant. J'ai ressenti. Puis quand que je berçais ma fille dans les premiers jours de vie et que j'étais, tu sais, au début de cette aventure-là en me disant, oh mon Dieu, c'est gros, là. Tu sais, oui, j'ai lu, puis je suis prête, là, mais c'est gros, puis il y a tellement de choses à apprendre sur le tas, dans le feu de l'action, puis pour me rapprocher de ce savoir-là inné, on dirait intergénérationnel, spontanément, naturellement, j'ai recommencé à chanter à ma fille la berceuse que ma mère me chantait. C'est que vous la connaissez, là, mais ma mère chantait toujours. La, une vieille chanson d'amour que je te chante à mon tour. Ma fille, tu grandiras et puis tu t'en iras. Mais un bon jour, tu te souviendras à ton tour de cette chanson-là. Et je chantais en boucle et en boucle, en sachant, des fois je pleurais, là, en sachant que ma mère le chantait elle-même quand elle était toute seule à 2 h du matin, pendant que les seins faisaient mal dans une montée de lait, et que ma fille, à son tour, elle va le vivre ça aussi. On dirait que j'avais le regard en arrière et en avant à travers les espaces-temps en me disant que oh, ce que je suis en train de vivre, je ne le vis pas toute seule. Il y a plein de femmes avant moi qui l'ont vécu dans ma lignée, plein de femmes après moi, dont ma fille, peut-être, et plein de femmes simultanément, en même temps que moi, mes voisines, peut-être dans ma même ville. Il y a d'autres femmes qui sont en train de le vivre, ça, et me sentir connectée au sein de la solitude d'une nuit froide, de montée de lait seule à 2 h du matin avec mon bébé. Il y a quelque chose qui, tu sais, tu parles d'intrication. Il y a quelque chose là qui brise le temps linéaire, puis qui relie quelque chose de plus fort et qui finalement devient un tissage qui nous soutient ensemble, qui nous énergise.
Ouais, puis qui rend possible. C'est pas de savoir combien d'heures t'as mis pour faire combien de centimètres qui rend possible un accouchement. Non. Le possible, la vie, le oui, t'sais. C'est dans ce lien-là, dans cette connexion-là, conscience-là. C'est l'amour même.
Tu parles du oui. Puis pour boucler l'épisode, parce que j'ai l'impression qu'on aurait pu parler pendant 8 h ensemble, mais je veux qu'on quand même, avant de quitter, qu'on boucle avec la notion du oui. Le oui. Le oui à la vie. Le oui à la naissance. Le oui à la mort. Parce qu'il y a tout un moment où est-ce que quand on accouche, on pense qu'on va mourir, c'est normal. Le oui à la mort, le oui à, c'est Quantique Maman qui dit ça, mais de donner la vie en donnant naissance à son enfant, on lui donne aussi la mortalité, la mort. Être un être humain, c'est être un être mortel. Hein? Dire oui à tout le chemin de vie qu'on va pouvoir vivre avec cet enfant-là. Oui, à tout ce qui peut se passer à travers un accouchement, tout ce qui peut se passer en postpartum, tout ce qui peut se passer après. Est-ce que tu peux nous parler du oui comme étant oui à quoi?
Le oui, d'abord, il va avec le non, tout comme la vie va avec, quand tu vis, tu sais que la seule certitude que tu as, c'est la mort. T'sais. Le oui, il a ce pouvoir de dépasser les frontières, tes frontières intérieures, puis les frontières à l'extérieur. Le oui, il ouvre, le oui, il fait tomber ses barrières, tu sais. Le oui, il écartèle de l'intérieur. C'est tu sais, quand tu dis oui à une contraction. C'est immense. Quand tu dis oui à une contraction, c'est. Il étire, il agrandit. L'univers est en perpétuel agrandissement. Tu sais, quand tu regardes du point de vue du multivers, c'est tout le temps en train de s'agrandir. C'est ça, ce oui-là. C'est le oui de la vie. C'est ça que je te dirais juste, c'est ce oui qui écarte, qui fait que ça passe, qui fait que tu deviens, ce qui fait que tu sais pas, mais tu sens que ton enfant, c'est ça qui est important de lui dire maintenant. C'est ce mouvement expansif-là dont on fait partie.
Et c'est tellement, la naissance est tellement une métaphore de, tu sais, c'est le début de l'humanité, c'est le début de la vie. Tu sais, je vois l'utérus, les liens avec l'univers, je vois tellement de liens avec justement l'ouverture, la voie lactée de l'expérience de l'allaitement, je vois tellement de liens avec finalement notre libre arbitre de dire oui à se laisser traverser par la vie, peu importe ce qu'elle est. Puis quand on dit peu importe ce qu'elle est, c'est dans notre quotidien, même quand on vit des épreuves, des difficultés, être capable de dire oui à l'émotion qui est là, puis d'ouvrir notre cœur pour la laisser nous traverser, nous mouvoir, devenir des artistes finalement de l'énergie des émotions qui nous traversent, qui nous apportent dans une direction. Emotion, c'est de l'énergie en mouvement. Où est-ce que mon émotion veut m'amener? Quel besoin je dois aller combler? Qu'est-ce que je veux changer? Où est-ce que la vie m'amène?
Qu'est-ce qui est
Pas.
accessible? Parce que l'émotion, du moment que tu t'acceptes de plonger dedans, elle t'a accès à... ça ouvre une autre porte, t'as accès à autre chose. Et ça, tu peux pas savoir, tu peux pas le savoir avant de le vivre.
Un trou noir, hein? On ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté, mais est-ce que je plonge? Est-ce que je me laisse, est-ce que je me laisse l'ouverture d'aller voir, vivre l'expérience, de l'accueillir pour
Pas ça.
finalement voir quelle autre dimension qui va arriver?
Il n'y a pas de performance à avoir là-dedans. Il y a des moments où ce n'est pas le moment pour nous, t'sais. De se respecter là-dedans, de dire non, pas maintenant. Faire le choix de dire non, c'est de se donner la possibilité de dire oui après.
Ah oui, ça revient à notre souveraineté, hein? Notre libre arbitre, on le sait, quand c'est le temps, il n'y a rien qu'on peut presser. J'avais fait un épisode sur le slow living, puis finalement, il y a la différence entre le temps kéros, le temps
Oui.
chronos, le temps kéros, c'est le temps que ça prendra. Mais on sait, on a une confiance justement dans le temps linéaire, c'est des indications, mais on sait aussi qu'il y a un temps naturel pour toute chose. On ne va pas aller tirer sur une fleur qui est en train de pousser. Même si on est le 12 mai, puis à 12 mai, habituellement, les tulipes sont sorties, puis wow, non! Ça, c'est ton mental avec des données, des informations, mais on est aussi en train de regarder la grâce de la vie et son temps et son rythme. Quand on dit oui, bien, on dit oui à avoir nos informations mentales, mais aussi avoir une ouverture du cœur pour voir, OK, est-ce que je suis prête à dire oui à tout ce qui se présente à moi, tout ce qui se traverse, qui me traverse, tout ce qui se passe, tout ce
Puis...
qui me change aussi, parce qu'à travers la maternité, j'ai découvert une facette de moi très agressive, ce qui était
Oui.
nouveau, parce que moi, très patiente, très souriante, tout va bien, mais tout ce qui approche, quand je sens que mon bébé est agressé, dans ses sons, qu'elle pue bien dans un environnement, tout de suite, ça me rend agressive comme une lionne. Puis mon Dieu, que c'est bien fait parce que ça me permet, je peux pas faire du déni sur les besoins de ma fille parce que je le sens. Puis papa, lui, est beaucoup plus tolérant au bruit de ma fille parce que pour lui, il y a pas l'agressivité qui monte en lui. Moi, je peux te dire dans un environnement où est-ce que je suis brûlée, que mon bébé veut dormir, je suis simultanément brûlée à vif, irritable, je dois sortir, je dois aller me coucher comme mon bébé. Finalement, il y a encore une intrication, il y a encore une fusion où est-ce que je suis encore connectée aux besoins de mon bébé, mais lorsqu'on accueille un être dans son ventre, on dit oui aussi à ce lien-là qui nous unit, qui nous transforme, qui m'amène à avoir de l'agressivité, je l'avoue, une agressivité, une intolérance même, une espèce de... quelque chose de radical qui se positionne en moi quand il y a des choses qu'il ne faut pas que ce soit comme ça. Mais avant, je me sentais... je sens que c'est nouveau pour moi, ça. Cette espèce de commandement-là intérieur qui m'amène à parfois même déplaire à certaines personnes. Si tu as ma fille dans les bras, puis je sens que ma fille n'est pas bien, que tu sois le pape, ma belle-mère, mon père, je m'excuse, je venais la chercher parce que si c'était juste de moi, j'aurais pilé sur mon bien-être pour ne pas t'effroisser dans ton ego. Mais là, vu que ça touche ma fille, radicalement, je suis désolée si ma fille n'est pas bien, que tu sois triste ou déçue, je m'en contrebalance. Je vais aller chercher mon enfant. Donc, il y a ce oui-là aussi à une nouvelle dimension de soi qui est là, qui au début ne me plaisait pas, j'aime pas ça, et comme ça, c'est pas ma préférence, mais quand je vois l'utilité justement de nos émotions, quand je vois l'utilité de toute cette cascade-là physiologique en moi qui se passe, ben, au début, on ne comprend pas, mais on peut quand même dire oui, puis qu'après, finalement, on voit que tout a un sens dans cette danse-là, dans cette symphonie de la vie. Finalement, tout trouve une place, une partition qui fait que ben, il y a une harmonie dans toute part, dans toute chose, même dans mon agressivité.
Oui, et puis l'impact que ça va avoir, que toi tu places une limite à cette personne-là qui peut-être pas capable, elle, de placer ses limites et puis de voir qu'il n'y a rien de méchant, il n'y a rien de contre elle, et puis tu ne sais pas l'impact que toi tu vas avoir sur elle, puis l'impact que ça a sur ta fille, puis dans ton couple, de ton homme, de devoir aussi dire non, dire oui, dire tout ça, ça... moi j'appelle ça l'horlogerie fine, cette horlogerie fine-là. On fait partie de tout ça.
C'est l'éveil de notre leadership intérieur, de notre belle souveraineté.
Et pour, si tu me permets, pour les femmes qui ont, j'en rencontre beaucoup, tu sais, pour les femmes qui ont vécu des accouchements qui ont été pour elles difficiles, où elles n'ont vraiment pas l'impression d'avoir eu leur accès à leur leadership, ou tu sais, des femmes qui parlent beaucoup de... Moi, j'entends souvent, j'ai l'impression que on m'a volé mon accouchement. Je ne sais pas si tu l'as déjà entendu. Moi, je l'ai entendu souvent, celle-là. Puis, l'accouchement au travers duquel on passe, qu'il soit réussi ou pas, parce que pour moi, il n'y a pas de réussir ou rater un accouchement, mais l'expérience qui est vécue. Je ne parle pas de l'histoire de qu'est-ce qui s'est passé. Je parle de l'expérience qui est vécue par la femme. Rétrospectivement, il y a énormément de choses qui sont accessibles, qui sont peut-être à aller voir. Pour voir qu'est-ce qui est possible maintenant que tu vois ça qui s'est passé. Donc, ce n'est pas toujours pendant l'accouchement qu'on a accès à ce leadership-là, mais ça peut être rétrospectivement, rétroactivement, de faire comme, OK, à ce moment-là, j'ai fait un choix, un non-choix, donc un choix inconscient, puis aujourd'hui, je suis capable de me voir là-dedans sans me juger, puis de voir dans les moments de transition, dans les moments importants de ma vie, dans les moments de shift, où est-ce que je peux aller retrouver maintenant, récupérer maintenant mon pouvoir, faire des choix qui soient mes choix à moi. Et l'accouchement, c'est comme une loupe. Donc, c'est pas parce que t'as pas eu, c'est pas parce que t'as, seules les femmes qui ont eu un accouchement comme elles le voulaient vont pouvoir gagner en leadership. En fait, non. C'est une expérience vécue qui est à aller considérer et accepter d'aller vivre les émotions que ça te fait vivre, de te voir dans ces espaces-là, hein, puis d'avoir vécu ça, etc. Puis, pour avoir accès à l'après.
Ah, c'est bien que tu le mentionnes parce que malgré que j'ai accouché en maison de naissance, j'ai quand même fait une hémorragie lors de la libération, la délivrance du placenta. Et ça a fait en sorte que je n'ai même pas été capable de tenir ma fille les premiers moments. Hein. Je l'ai donnée à mon conjoint parce que je sentais que j'étais tellement molle, j'étais en train de perdre connaissance, puis je ne voulais pas échapper mon bébé, même si j'étais couchée dans le lit. Et j'ai dû quitter à l'hôpital parce que, au cas où que l'hémorragie recommence, puis j'avais déjà perdu énormément de sang, fait que là, il fallait qu'il aille voir si au besoin, là, j'avais une transfusion sanguine disponible. Et ça demandait un peu plus de surveillance pour la nuit. Donc, les sages-femmes m'ont transférée à l'hôpital. Pendant ce temps-là, je venais d'accoucher. Mon bébé doit faire les tests, là, du nouveau-né avec papa à la maison de naissance. 45 minutes, puis après, il est venu nous rejoindre. Mais me rejoindre avec elle, avec la petite. Mais malgré tout, tu sais, c'est pas la situation. Tu sais, c'est sûr que j'ai eu un deuil à faire de faire mon premier pot à pot avec ma fille. Mais peu importe ce qui s'est passé, quand on dit oui aussi à ça, mais on peut dire oui aussi au beau. Dans ça. Le beau dans ça, c'est que mon conjoint et ma fille ont une relation extraordinaire aujourd'hui, puis je peux faire mon pot à pot aussi, revivre la naissance de ma fille, puis aller chercher ce qui m'a manqué, je peux le revivre aujourd'hui encore. Il y a quelque chose de... Tu sais, notre pouvoir, c'est pas juste dans les circonstances parfaites qu'on s'imaginait puis qu'on aurait voulu contrôler comme étant les paramètres idéaux de notre naissance, ou peu importe. Il y a toute l'histoire, je pense, c'est dans notre pouvoir, notre réaction, notre interprétation. Puis dans la bienveillance de l'univers, moi, je crois qu'il n'arrive pas toujours ce qu'on veut, mais il arrive toujours ce qu'on a besoin, ce qui est l'idéal pour nous, pour notre épanouissement, pour notre éveil de conscience, puis de voir, bon, dans cette situation-là, dans cette dynamique-là, est où la grâce pour moi? Dans ce mouvement-là que la vie a eu, je ne peux pas tout contrôler les paramètres, mais dans ça, à quoi je peux dire oui? Puis quels sont les cadeaux qui se présentent à moi si je dis oui?
Puis ça passe des fois d'aller dire, OK, je vais aller mettre le nez là, puis si j'ai pas envie, puis ça me fait mal d'y aller. Ouais. Mais c'est de la vérité pareil, que ce soit beau ou pas beau, que ça sente bon, que ça pue, c'est de la vérité. Si tu restes sur cette fréquence de la vérité, tu traverses. Tu traverses.
Wow! J'espère que vous étiez prête à voir toute cette intensité-là pendant l'épisode d'aujourd'hui. Merci, Aurélie. Merci d'avoir porté cette ouverture-là, peut-être plus spirituelle, physique quantique, cette transe, cette intrication-là qu'on vient vivre à travers la maternité. Merci d'avoir échangé avec moi, de m'avoir accueilli dans mes partages, puis d'avoir aussi osé te révéler à nous. Ça fait vraiment du bien.
Merci, c'était bon. Ouais, c'est ça, c'était bon pour moi aussi dans mon cœur. C'était bon. Comme des retrouvailles entre femmes, là. C'est quelque chose de, ouais, de bon. Un creuset sécuritaire.
Pour celles qui veulent te rejoindre, est-ce que tu peux, en quelques mots, nous dire tes services? Je vais te mettre les liens en commentaire de l'épisode pour ceux et celles qui veulent aller plus loin. Mais qu'est-ce que tu offres pour accompagner les femmes qui veulent épanouir leur souveraineté?
Ce que je propose, c'est soit de l'accompagnement individuel au travers de, que ce soit par rapport à la maternité. Globalement, j'ai pas mal de clientes qui sont effectivement des mamans ou des futures mamans. Moi, je prépare aussi les couples en lien avec qu'est-ce qui est à travailler dans leur lien à l'autorité. Donc ça, c'est je le fais en individuel. J'ai un processus de groupe aussi pour les femmes qui ont accouché, d'aller chercher vraiment les pépites au niveau de leur leadership. Ça s'appelle Louvre. Donc là, je termine une cohorte cette semaine, en fait. Donc, j'ai aussi bien des processus de groupe que de l'individuel. En fait, tu vas mettre les liens, puis le moyen le plus facile de me contacter, c'est via mon Facebook personnel, en fait, qui est un Facebook complètement ouvert. Donc, voilà, c'est travailler sur ces fréquences-là qui permettent de vivre ces révélations-là de qui l'on est. Et c'est comme un chemin de retour à soi. Voilà. De ce point d'origine-là, de qui le je suis.
C'est bon, c'est bon, c'est bon. Merci infiniment, Aurélie. Merci d'avoir été avec nous, tout le monde. Vous allez voir les liens, Aurélie, dans la description de l'épisode si vous voulez aller plus loin. J'espère vraiment que l'épisode vous a fait du bien. Qui, peu importe votre situation, vous avez trouvé peut-être cette fréquence-là d'empuissancement en vous, d'aller connecter avec cette souveraineté maternelle, cette lionne-là, cette louve qui monte, qui se présente, qui dit oui à la vie sous toutes ses formes et qui trouve la sagesse de se mettre sur la fréquence de sa destinée, de sa vie, de ses choix, de son libre arbitre et de créer ben, sa tribu, son petit troupeau, hein, sa petite famille avec ses louveteaux, ses petits lionceaux. Et de pouvoir, c'est drôle parce que ma fille a le son qu'elle préfère faire constamment, c'est le tigre. C'est, elle dit maman, papa, et elle fait le tigre constamment dans sa journée. Et on dirait que là, je viens de faire le lien que c'est parce que je suis une lionne. Hein? Et elle adore son tigre toutou. C'est vraiment un phénomène. Donc, c'est un beau symbole que je viens de réaliser que Ouais, il y a une petite férocité qui s'installe, puis que ma fille, elle me reflète bien. Je trouve ça beau. Merci de tous avoir été avec nous. J'ai reçu des questions concernant les prochains ateliers que j'offre, l'atelier Être bien dans l'école Écoute ton corps. J'en ai un qui va arriver le 27 et 28 avril à Laval en présentiel, donc l'atelier Être bien, qui est l'atelier de base de l'école Écoute ton corps. Donc ça, si vous voulez avoir de l'information, vous m'écrirez, je vais mettre le lien aussi en bio. Et ben, on va faire un pont aussi sur le prochain épisode parce que là, on a découvert l'énergie de la femme à travers la maternité. Mais le prochain épisode, j'ai le bonheur d'accueillir une sexologue pour aller découvrir quand le couple passe à parents. Comment développer, s'adapter, faire des liens avec la sensualité, le couple, la communication, l'émergence d'une nouvelle énergie sensuelle, sexuelle après le début d'une famille. Donc, ça va être super intéressant. Ça va être avec Maman Sexo que vous connaissez peut-être sur Instagram. Donc, fort, fort, fort intéressant comme épisode à suivre. Et comme ça met la table aussi à mon dernier atelier pour le printemps, qui est l'intimité et la sexualité, comment vivre harmonieusement nos relations intimes et sexuelles, qui va avoir lieu le week-end du 20 et 21 avril prochain, aussi à Laval en présentiel. Donc, un autre atelier Écoute ton corps que j'aurai le bonheur d'animer. Tout va être en description de l'épisode. Je vous souhaite une belle journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous écrire, ça va nous faire plaisir. Merci d'avoir été avec nous. Si tu as aimé l'épisode, n'hésite pas à le partager à des amis ou en story en identifiant Mouvement Épanouissement pour que je puisse te remercier personnellement. Si tu veux aller plus loin, plusieurs ressources offrent à toi. Premièrement, au-delà du podcast gratuit, il y a la communauté gratuite Maman Sereine sur Facebook. Le lien est en description de l'épisode si tu veux venir nous rejoindre. Si tu veux t'épanouir personnellement, trois options s'offrent à toi. Nouveauté 2024, Yoga Mama, j'enseignerai le yoga les mercredis à 10h à Chambly et les Yogi Baby seront les bienvenus. Il y a la boutique de Mouvement Épanouissement en ligne dans laquelle tu vas pouvoir retrouver l'atelier du stress à la sérénité en rediffusion. Et finalement, j'anime les ateliers Être bien de l'école Écoute ton corps. Tu peux aller voir aussi en description de l'épisode pour voir les prochaines dates et peut-être te joindre à nous en présentiel ou en virtuel. Si tu veux t'épanouir professionnellement, notre service de consultation privée de 1 ou 12 séances te permet d'aller en profondeur dans ton entreprise en regardant la synergie du succès, de l'épanouissement personnel et professionnel pour que tu puisses rayonner et prospérer dans ton activité. Parce que tu mérites de briller, de succès, mais aussi de sérénité.